Vous écoutez
RMC.
RMC 6h-9h.
Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Dans notre groupe, les salariés de Next Radio TV ont voté massivement hier pour une reprise de la grève jusqu'à lundi 9h après des propositions jugées insuffisantes par l'intersyndicale sur l'ampleur des réductions d'effectifs au sein de Next Radio TV. Il y a des conséquences évidemment sur l'antenne, sur les antennes RMC, RMC Découverte, BFM TV, toutes les antennes de BFM qui sont perturbées. Vous voulez apporter un commentaire ?
Déjà, de tout cœur, avec les grévistes, vous êtes quand même un réseau d'informations, y compris d'informations locales, c'est essentiel pour la démocratie. On a vécu depuis 2 ans les gilets jaunes, les grèves de la SNCF, les tensions dans la société, évidemment la crise du Covid. Vous avez été sur le pont matin, midi et soir. Ça fait beaucoup de personnes qui sont pas récompensées pour cet extraordinaire investissement. Donc, puis je pense particulièrement, pardonnez-moi, aux pigistes, aux intérimaires. Je sais que dans ce métier, c'est un statut qui est terrible et qui peut durer de très 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 nombreuses années.
Le Covid-19.
Ça renvoie aussi à quoi ? Quand il y a un plan social dans l'industrie,
oui.
Ça fait la une des journaux. Et c'est légitime. Quand il y a un plan social dans les services où travaille une grande majorité de nos concitoyens, souvent, c'est pas la même actualité. Quelque part, on fait pas attention. Et ça dit aussi.
On parle de Renault, et on ne parle pas d'une entreprise de nettoyage, par exemple.
Ça dit peut-être aussi la baisse de la protection dans les services parce qu'ils sont sacrément bousculés.
Oui. Bien. Covid-19. Augmentation du nombre de cas dans 11 pays d'Europe. L'OMS s'inquiète. Est-ce que nous négligeons les gestes barrières? Est-ce que vous-même, vous avez l'impression de négliger les gestes barrières?
Il y a eu incontestablement une envie de retrouver une vie normale une fois qu'on s'est déconfiné. Il y a le soleil, on a envie d'être au restaurant, on a envie de boire un verre de vin avec ses amis. Donc il y a pu y avoir une baisse de la tension, mais quand je prends le train, tout le monde a le masque, en gare, tout le monde a le masque. Il y a du gel hydroalcoolique à peu près partout. Voilà. Et puis il faut voir aussi qu'il y a toute une jeunesse qui est finalement assez peu touchée par le drame sanitaire que nous avons vécu.
Et les images vous ont surpris, choqué, enfin choqué, ce mot est employé maintenant à tout
pas
propos.
Choqué, mais, pas choqué, mais, parce qu'évidemment, il y a un côté, faut être extrêmement vigilant, faut continuer à être vigilant. Mais quand je vois cette jeunesse,
vous habitez le 10e arrondissement,
qui est resté confiné longtemps, qui est peu touché par la pandémie. En termes de drame sanitaire, à qui on dit, maintenant, en plus, tu n'auras pas de boulot. Les canicules ont redémarré. Tu vas te prendre le dérèglement climatique toute ta vie. Quand je vois des enfants qui, à peine reprennent l'école, peuvent pas jouer dans les cours de récré parce qu'il y a la pollution de l'air. Je me dis qu'on a à la fois une jeunesse qui en prend plein la gueule, pardonnez-moi, qui aspire à vivre, parce que la jeunesse, c'est aspirer à vivre. Donc il faut être vigilant, mais il faut aussi être bienveillant vis-à-vis de ces jeunesses.
Yannick Jadot, second tour des municipales dimanche. Vous vous attendez à un succès? Est-ce que vous attendez un large succès des listes Europe Écologie Les Verts ou des candidats soutenus par Europe Écologie Les Verts?
Partout où je vais dans le pays, je sens une incroyable aspiration populaire à transformer la ville, à se réemparer de sa vie. Parce que ça existait déjà avant la pandémie. Mais on a vu que pendant toutes ces pandémies, la question de l'alimentation et de l'agriculture, la question des transports, la question de la densité ou la moindre densité de la ville, les espaces verts, la question de notre rapport au travail, tout ça a aussi évolué. Et je vois une aspiration à la transformation, mais une transformation extrêmement rigoureuse, extrêmement sérieuse. partout, j'ai rencontré de nombreuses entreprises. Une entreprise formidable, encore à Montpellier, il y a quelques jours, Predict, qui est une entreprise française qui aide les maires à l'échelle locale à prévoir les inondations. Vous êtes du Sud, vous avez vu qu'il y a 10-12 jours, il y a eu un événement Cévenol, il serait tombé sur Montpellier, ça pouvait être une catastrophe. Donc on a ce dérèglement climatique, on a cette volonté de solidarité, de bienveillance entre nous, de mieux vivre la ville, et il y a ce logiciel écologiste.
Oui,
ce logiciel écologique
qui est en train de s'imposer,
qui est en train de s'imposer, et c'est une belle et grande nouvelle pour notre démocratie.
Vous allez vous imposer. Quel est votre objectif, franchement?
J'en sais rien. Je vois une formidable dynamique.
Où est-ce que vous pensez que vous allez gagner?
À Lyon, à Marseille, évidemment à Grenoble, à Besançon, à Tours, à Metz, à Lille. Je l'ai dit à Montpellier. Et à chaque fois que je cite toutes ces villes, j'en oublie d'autres. Mais il y a encore une fois, on est dans un moment politique extrêmement dur.
Un tournant politique.
On est dans un tournant politique où, finalement, la société constate qu'on veut la vie d'avant, mais on ne veut pas le système.
Je vous parle de tournant politique.
Et donc, il faut transformer.
Parce que dimanche soir, ou lundi, ou mardi, imaginons que Europe Écologie Les Verts, que les écologistes prennent la tête de la direction de plusieurs grandes villes de France. C'est un tournant politique.
Ça veut dire que les écologistes...
Ça veut dire que vous devenez le leader de la gauche. Les écologistes deviennent la première force de gauche, leader de la gauche. Tournera autour de vous.
Ça veut dire que l'écologie recompose le paysage politique. En 2017, Macron recompose le paysage politique autour de lui. Aujourd'hui, le macronisme a été aspiré par la droite. La bonne nouvelle démocratique, c'est qu'aujourd'hui, le paysage politique se recompose autour d'une espérance, autour d'un projet, autour de solutions concrètes pour les entreprises, pour les déplacements, pour l'alimentation, pour les services publics de proximité, pour la démocratie. Il y a aussi une aspiration dans les villes à renouveler les équipes.
Mais
ça veut dire qu'il y a une force du renouveau dans ce pays.
Oui.
Parce que si dimanche... On a...
Mais c'est un séisme à gauche.
Bien sûr, mais pas simplement à gauche. Ah, pour ce pays, mais il faut que ce soit un séisme.
Vous poser la question.
Mais pas un séisme, parce que séisme, c'est négatif.
Non, oui,
il faut que ce soit une mobilisation pour ce pays.
Un bouillonnement.
Imaginez Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Nantes, Rennes. C'est pas que les écologistes qui tirent, mais tous et toutes le font autour de l'écologie. Et moi, ces forces du renouveau qui se rassemblent dans ce beau projet pour conquérir le pouvoir, pas pour l'occuper, pour l'exercer, l'accaparer, pour le rendre aussi
politique.
Bien sûr.
Ce serait un vrai tournant politique.
Ça serait un magnifique tournant politique.
C'est-à-dire que plus rien ne se fera, à gauche et même au-delà, sans vous. Vous serez au cœur, le pivot de tout espoir futur pour la présidentielle, par exemple.
Plus rien ne se fera sans l'écologie, parce que on a les canicules, parce que quand j'étais à Montpellier, on en plaisantait presque tellement c'est dramatique. S'il faisait très très chaud, et on se disait, notre référence, ça n'est plus Sahara, c'est la Sibérie. Vous vous rendez compte que dans le cercle polaire, il fait près de 40 degrés. Tout ça est aberrant, tout ça va percuter nos modes de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que l'écologie arrivant au pouvoir crée de l'emploi. Oui. Elle dynamise le tissu économique.
Je vais en parler.
Elle booste toutes les PME et les artisans du territoire. C'est ça la bonne nouvelle.
Que doit faire Emmanuel Macron mardi? Il va prendre des décisions après la convention climat, la convention citoyenne.
J'espère. On a des citoyens.
C'est un mandat qui lui a été donné. C'est ce que dit Nicolas Hulot.
Absolument, il a raison.
Les citoyens lui ont donné un mandat.
Il a parfaitement raison. On en discutait encore avec Nicolas hier.
Oui.
C'est extraordinaire. Vous avez des citoyens tirés au sort qui, pendant 9 mois, en plus de leurs activités, en plus de leur métier, se sont convertis à l'écologie. Ils l'ont fait en responsabilité. Et d'ailleurs, je trouve que le mépris affiché par certains responsables politiques sur ces citoyens qui ne seraient pas à leur place parce qu'ils s'occupent de ce qu'est leur vie et de celle de leurs enfants, je trouve ça indigne. Mais ces citoyens se sont convertis à l'écologie en 9 mois. Et ben moi, j'attends du président de la République, qui est en fonction depuis 3 ans, qu'il commence aussi à se convertir à l'écologie. Ah non.
Bien.
Vous savez, on arrive.
Bien.
Vous avez vu Bayer Monsanto? qui va donner 10 milliards.
10 milliards de dollars.
10 milliards de dollars pour les victimes du Roundup du glyphosate. En novembre, de cette année, on arrive à l'échéance fixée par le président de la République pour éliminer le glyphosate de notre agriculture. On a augmenté les quantités utilisées. D'un côté, un groupe qui compense, paye pour les cancers générés par le glyphosate. Et de l'autre, un président de la République qui ne tient pas ses promesses. Oui, il faut renouveler les équipes.
Bien, Yannick Jadot, quand vous voyez les alliances, La République En Marche, LR, par exemple, à Lyon, mais pas qu'à Lyon, à Bordeaux ou à Strasbourg, vous dites quoi? Vous dites que c'est un combat contre l'écologie?
Oui. On
est en train de créer un front anti-écologie?
On a un front républicain contre le Front National, contre le Rassemblement National, même si à Perpignan on voit quelques candidats en marche qui ont rejoint Alliot, c'est dramatique, et on a aujourd'hui un front du déclin contre le climat qui ne cesse dans les discours, quand ils sont sur votre plateau, de dire oui, il faut des villes respirables, oui, il faut de la nature, et en fait quand il s'agit de passer aux actes, ils ne se rangent pas du côté de la société en mouvement, ils se rangent du côté des lobbies.
Alors,
qui veulent,
je vous pose une
nous engluer dans un vieux monde.
Au Havre, vous voteriez pour qui? Voteriez pour le communiste Lecoq ou voteriez pour Édouard Philippe?
Pour le communiste Lecoq.
Même s'il est pro-nucléaire, même si...
Je pense qu'il y a une aspiration à transformer cette ville, bien sûr.
Même s'il est pro-nucléaire. Je vais revenir sur le nucléaire.
Écoutez, vous savez, mon combat sur le nucléaire, il est simple. Quand aujourd'hui, on met en danger EDF... On met en danger notre service public de l'électricité à cause du nucléaire. Vous savez que EDF a un projet de faire encore des EPR, ces nouveaux, ces prétendus nouveaux réacteurs qui nous coûtent 10 milliards de trop sur 10 ans de trop. Ils veulent en faire deux autres en Grande-Bretagne. Vous vous rendez compte qu'on va vendre aux Britanniques, on prétend vendre aux Britanniques de l'électricité à 110 euros le mégawattheure, sorti des réacteurs, quand l'éolien offshore, qui crée tellement d'emplois enfin, à Montoire, à Saint-Nazaire, dans beaucoup de villes françaises, ça sort à moitié prix du nucléaire. On a un potentiel extraordinaire, on a les meilleurs ingénieurs du monde en énergie. On a des boîtes partout qui ont le pied à l'étrier, qui peuvent engager des dizaines de milliers de salariés avec de la valeur ajoutée sur tous nos territoires. Comment on peut encore faire le choix d'une énergie risquée, qui est aujourd'hui très chère, contre des énergies citoyennes qui créent beaucoup d'emplois?
Un mot quand même, un mot sur les engagements de vos candidats. Et que je regardais à Lyon, le candidat veut interdire les congrès internationaux. C'est intelligent, franchement. Est-ce que c'est raisonnable?
Écoutez, j'ai pas vu cette proposition, je la regarderai. Ils ont un raisonnement.
Partagé ou pas?
Du mal à croire que tous les centres de congrès qui existent à Lyon vont devenir vides. Je crois pas à ça. Mais je regarderai.
Vous n'espérez pas.
Nous devons continuer à faire de nos villes des villes attractives. Économiquement, qui booste la dynamique des entreprises. Et à chaque déplacement, vous savez, qu'est-ce que les candidats et les candidates me font rencontrer des entreprises.
Yannick Jadot,
elles ont envie de bouger.
Alors, la convention sur le climat, les propositions, est-ce que ce n'est pas de la décroissance annoncée?
Vous savez, il y a de belles décroissances.
Oui.
Moi, j'ai un combat, c'est la décroissance des inégalités dans notre pays. Ça mine notre pays. J'ai un combat, c'est la décroissance des maladies générées par la pollution. La décroissance du CO2. On a un grand projet européen potentiel. Sortir notre économie du carbone. Ça booste, je l'ai dit 100 fois. Quand je discute avec le patron de la CPME, Monsieur Asselin, donc la Confédération des PME, aujourd'hui on est presque sur le même discours. Il dit, il faut investir à l'échelle des territoires. Oui, il faut investir sur les secteurs riches en emplois. Oui, et regardez cette convention citoyenne qui est parfois moquée. Qu'est-ce qu'elle dit avec beaucoup de bon sens? Eh bien, sur l'investissement, l'aide publique à la rénovation, elle doit se focaliser sur les plus vulnérables, aider tout le monde, mais se focaliser sur les plus vulnérables.
Est-ce qu'il faut réduire la consommation?
Non. Ça dépend de la consommation.
Oui,
quoi,
ça dépend laquelle.
La réduction du temps de travail, vous êtes content,
vous êtes content qu'il n'y ait pas de réduction, pas de proposition de réduction du temps de travail?
Je pense que, vu la crise sociale dans laquelle nous sommes,
oui,
il faut ce projet-là, qui est un projet de civilisation,
oui,
ce projet-là n'est pas un projet d'actualité. Aujourd'hui, il faut trouver du boulot pour le potentiel 1 million de chômeurs supplémentaires.
Donc une croissance verte. Donc une croissance verte.
Donc une économie verte. Mmh. Il faut absolument booster tous les secteurs qui créent de l'emploi et qui nous font du bien. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu cette tribune de 600 étudiants de l'aéronautique. 600 étudiants de l'aéronautique, notamment de Toulouse. Ils disent quoi ? Leur rêve, c'est l'avion. C'est cette liberté qu'apporte l'avion, cette technologie de l'avion. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous savons, et c'est notre responsabilité, de réduire le trafic aérien. Nous avons la responsabilité de reconvertir une partie de l'industrie aéronautique vers les énergies renouvelables, vers le ferroviaire que notre gouvernement est totalement en train d'abandonner. Et bien, je trouve que cette responsabilité de notre jeunesse, de ces ingénieurs de l'aéronautique, elle est formidable. On doit la suivre.
Enfin, rien sur la taxe carbone, j'imagine que vous le regrettez. Oui. Rien sur le nucléaire.
C'est vrai. Mais
j'imagine que vous le regrettez.
Ce sont 150 citoyens qui, en 9 mois, ont travaillé avec beaucoup de bon sens. Moi, quand j'entends une infirmière les zones rurales qui dit « Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la bagnole, mais il va falloir quand même revenir » sur la voiture solo, c'est-à-dire se déplacer seul dans sa voiture. Quand je vois ces citoyens dont on nous a dit que leur seul désir, caricaturé par des responsables politiques irresponsables, c'était d'avoir des centres commerciaux
en périphérie. Mais la taxe carbone, il faut la rétablir.
Il faudra une taxe carbone. Il faut mettre un prix au carbone.
Oui.
Si on veut éviter le dérèglement climatique.
Oui.
Mais ce qu'ont toujours dit les écologistes, c'est que notamment pour les plus vulnérables, compenser euro par euro. Et c'est plus qu'une compensation euro par euro, parce que ça veut dire que vous avez plus de transports collectifs. Ça veut dire que votre logement, il est isolé et que vous consommez 5 à 600 euros de moins d'énergie par an. Et l'été, c'est 4 à 5 degrés en moins. Et ça, c'est formidable.
Bien, sortons de l'écologie, Yannick Jadot. Je voudrais vous parler de cette manière de peut-être de revisiter notre histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire. Déboulonner des statues. Est-ce qu'on ne déboulonne pas notre histoire en déboulonnant des statues? Franchement, quelle est votre position?
Je pense qu'il faut... on voit là une forme de conflit entre l'histoire telle qu'elle s'est déroulée dans les contextes de l'histoire et la mémoire, et notamment la mémoire des victimes. Repenser, par exemple, la Troisième République simplement avec le regard d'aujourd'hui, c'est aberrant. La Troisième République, c'est l'école. C'est la fortification de notre pacte républicain. Mais c'est aussi cette abomination qu'a été le colonialisme. Et si on dit simplement tous ceux qui ont participé à la Troisième République sont des colonialistes insupportables, qu'il faut rayer de l'histoire, c'est une faute politique, c'est une faute historique. Mais notre histoire, et notamment la façon dont on met en scène l'histoire, avec les noms de rues, avec les statues, elle peut évoluer. Il n'y a pas de raison que, d'une certaine façon, une statue soit là pour l'éternité. Il se passe en permanence des choses. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas assez de noms de femmes dans les rues. Je regrette qu'il n'y ait pas assez de noms de victimes. On ne peut pas être simplement sur des héros qui sont simplifiés, ils ne sont qu'héroïques, sortis de la complexité de leur histoire, sortis de leur complexité individuelle. Et puis, être face à des mémoires qui sont des vécus familiaux, des vécus personnels, qui peuvent être extrêmement douloureux. Donc, ayons un débat structuré, ayons un débat apaisé sur notre histoire. Vercingétorix, il a été... Quand on a fait nos ancêtres les Gaulois, au XIXe siècle, c'est pas que, historiquement, on vient plus des Gaulois que des Francs. C'est parce qu'à ce moment-là, il fallait des Gaulois anti-germaniques et non pas des Francs qui venaient aussi de Germanie parce que notre histoire elle était contre l'Allemagne. Vercingétorix, c'est un formidable... dans notre imaginaire, il est formidable. C'est un esclavagiste aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on doit avoir ce débat sur nos personnages. On doit avoir ce débat à l'école, dans la société, sur notre histoire. On doit intégrer les mémoires douloureuses. Mais on ne peut pas être dans un débat en permanence caricaturale quand on sait qu'il est complexe.
Oui, est-ce que... Par exemple, la fameuse fresque à Stein, en région parisienne, où l'on voit George Floyd et Adama Traoré, et une phrase qui met en cause la police, les violences policières. Est-ce que cette phrase aurait dû être effacée? Franchement.
Il y a de la violence policière. Il faut écouter notre jeunesse qui, je l'ai dit tout à l'heure, précarisée du point de vue scolaire, précarisée du point de vue social, discriminée parce que le nom, parce que l'ethnie, parce que la religion. Il faut entendre leur colère. Mais moi, je veux pas que notre pays, ça soit de la peur et de la colère et que ça finisse sur la division.
Non, mais donc, personne ne veut ça.
Personne ne veut ça. Oui, mais écoutons-le et agissons.
Oui, mais agissons. Avec une telle phrase, est-ce qu'on n'encourage pas une haine contre la police?
Je défends la police. Dans les cas, quartiers, oui. On envoie les plus jeunes, oui. Les moins bien payés, oui. Les moins expérimentés. On met la police au front de la République, de toutes ces tensions, de toutes ces difficultés. Donc construisons avec les policiers, avec la société, un vrai service public de la police, avec des moyens, des compétences, de la formation, une juste rémunération et avec un commandement et un gouvernement qui ne rompt jamais la tradition républicaine de la police. Ça n'a pas été le cas ces derniers mois. Travaillons. Moi, vous savez, quand je vois des policiers qui travaillent avec les jeunes, avec des magistrats, avec des élus, pour faire en sorte que, dans certains quartiers, ça se passe bien, eh bien, je trouve ça formidable. C'est un exemple.
Bien, merci Yannick Jadot.